Nous allons continuer avec notre étude que nous avons amorcée il y a déjà quelque temps dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, versets 12 à 16. Je vais le lire. Et là-dessus, comme je disais, il aborde donc la troisième catégorie. Nous avons vu jusque-là qu'il s'était adressé à ceux qui n'étaient pas mariés et aux veuves. Nous avons vu qu'il s'était adressé à ceux qui étaient mariés. Là, il en arrive aux autres, c'est-à-dire, on l'avait dit, c'était les couples mixtes dans l'Église. Des couples mixtes qui sont qui étaient anciennement païens, mais dont un des deux est devenu croyant, est devenu chrétien. Alors, c'est des couples mixtes qu'il s'agit ici. Alors, ce passage ici, dans les versets 12 à 16 que je vais lire, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, donc c'est les propos de Paul lui-même en tant qu'apôtre, par son autorité apostolique, il dit, « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, parce que j'avais dit que j'allais aborder aussi deux autres questions sur lesquelles je voudrais qu'on puisse s'échanger, en tout cas vous donner mon point de vue, et puis des points de vue de tous les commentateurs de la Bible au sujet du divorce et du remariage. C'est un sujet brûlant, c'est un sujet sur lequel il y a tellement d'avis, etc. Et nous allons voir tout ce qui se dit à ce sujet. Ce que je veux dire en début, c'est qu'il ne faut pas utiliser ce passage ici du verset 12. C'est « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » Il ne faut pas utiliser ce passage comme la preuve qu'un croyant peut épouser un non-croyant. C'est clair. Nous entendons là-dessus, parce qu'on peut dire, « Ah non, si c'est comme ça, je peux épouser un non-croyant. » Non, c'est des gens qui étaient au départ mariés en n'étant pas croyants. Mais un des deux vient à connaître le Seigneur par la suite, cela étant dit. Donc, Paul aborde ici un point que Jésus n'a pas évoqué. Dans tous les enseignements qu'on connaît, Jésus n'a pas évoqué ce sujet des couples mixtes. Jésus ne l'a pas évoqué dans son ministère. Jésus n'en a pas parlé, mais ça ne vient pas du Seigneur qu'il faut minimiser la chose. C'est pour ça que Paul dit, c'est moi qui dis. Pas parce qu'il le dit, il sait qu'il était apôtre, il sait qu'il a eu la révélation pour beaucoup de choses, il sait qu'il a une intelligence, il sait que le Saint-Esprit parle et travaille avec lui, donc il peut dire des choses et puis on doit en tenir compte, il ne faut pas les minimiser parce que ce n'est pas sorti de la bouche de Jésus-Christ. Il était investi d'une autorité apostolique. Et voilà pourquoi il doit justifier. Je l'avais dit la fois passée, quand c'est Christ qui parle, il le dit tel que Christ le dit, Jésus l'a dit. Mais quand c'est lui qui parle, il justifie son point. Et il le justifie en disant, mais d'abord que l'homme, le non-croyant, il a consenti à habiter avec elle. Alors, s'il a consenti à habiter avec elle en sachant que cette femme est devenue croyante, chrétienne, croyante, ben il ne peut pas. Ça veut dire qu'il accepte de ne pas la gêner dans sa croyance, dans la pratique de sa foi. Tu consens, tu dis, mais écoute, ben, je vais rester avec toi. Puis tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenue chrétienne, j'accepte cela. Donc, j'accepte de ne pas gêner le croyant dans ses convictions. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Et au verset 14, il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Ça ne veut pas dire que le non-croyant est sauvé, hein? C'est bien clair, donc on s'entend là-dessus. Il n'est pas sauvé, parce que pour être sauvé, ça suppose qu'on a la foi en Jésus-Christ et que on se repent de ses fautes et de ses péchés. Mais simplement, le fait d'habiter dans un foyer, dans une famille, tu es soumis à l'influence de la parole, l'influence des prières qui sont élevées dans cette maison, l'influence bienfaisante de la grâce qui coule sur la vie de ce croyant. Tu vis sous son toit, il y a des choses dont tu bénéficies. Hein? Amen. Comme quand Joseph investit de la grâce de Dieu quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, mais les choses allaient très bien dans cette maison. Nous sommes porteurs de bénédictions on l'ignore toujours. Et quand nous arrivons quelque part, ben, nous pouvons impacter une maison, nous pouvons impacter une compagnie à cause de notre présence dans la compagnie. De la même façon, dans le couple, on dit que le mari est sanctifié. Et c'est davantage leur relation, dans le fond, qui est sanctifiée. Parce que le non-croyant bénéficie à ce moment-là de l'espérance de la sanctification. Elle n'est pas encore effective, mais il y a une espérance de la sanctification, mais pas la certitude de la sanctification. Hein? Ce n'est pas passif, la sanctification. Il y a une part active de la personne. Donc, il va bénéficier de l'espérance. À force de rester là-dedans, à force de prières, etc., un jour, il peut être affecté, un jour, il peut arriver à ce niveau de sanctification. Autre chose que l'on dit là-dedans, au verset 14, on dit, « Leurs enfants sont aussi saints, sinon ils seraient impurs. » Voilà pourquoi nous nous permettons de présenter les enfants d'un couple où l'un des deux n'est pas. Parce que quelqu'un a soulevé un jour la question, il dit, « Mais pourquoi vous faites la consécration d'un enfant ?» Quand le père ou la mère n'est pas chrétienne. Un des deux est chrétien, l'enfant est saint. La Bible le dit ici. Donc les enfants sortis d'une telle union sont saints parce qu'ils bénéficient de la faveur divine qui est sur le conjoint chrétien. Il y a comme, on dirait, une offre de la grâce de Dieu, comme une offre qui est pendante. Il va falloir que cet enfant, le jour où il va grandir, saisisse par exemple cette offre et décide de devenir, de donner sa vie au Seigneur. Amen. Il a le droit de l'accepter, il a le droit de refuser, mais le fait qu'il est né dans une famille dont un des conjoints est chrétien, ben, il a cette offre de la grâce du salut qu'il acceptera ou qu'il refusera selon son choix beaucoup plus tard. Amen. Le verset 15 et le verset 16. Si le non-croyant se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Ce qui veut dire, c'est que si le non-croyant se sépare, lui seul peut entreprendre les démarches de séparation, de divorce. Ça ne doit pas venir du chrétien ou de la chrétienne, mais ça doit venir du conjoint non-croyant. Le chrétien, à ce moment-là, n'est pas lié. Et tu ne peux pas persister dans un couple où l'autre ne veut plus de toi. Tu ne peux pas persister à t'imposer. Tu serais en contradiction avec ce qu'on dit au verset précédent, au verset 15. Là, on dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Là, il n'y a plus de paix possible. Et si tu persistes, d'ailleurs, il peut même te menacer avec une arme, parce que je connais un cas comme ça, là, où le mari non-croyant dit à l'épouse qui est croyante, « Je ne veux plus te voir. » Va-t'en d'ici. Tu essaies de résister. Au début, tu dis, est-ce que c'est comme une bombe qui te tombe dessus parce que tu n'as pas vu venir la chose, tu n'as pas vu venir. Tu continues à rester. Et puis un jour, tu trouves qu'il a mis une arme sur le chevet, au chevet du lit. C'est un message fort. Là, donc, tu ne peux pas persister longtemps. Tu peux pas acheter même une deuxième arme à ce sujet. Donc, tu ne peux pas persister et forcer la note. Tu te sépares et la Bible nous dit à ce moment-là que le manque de paix qui est créé à la longue va créer à la longue beaucoup de souffrances. Si tu continues à vivre dans une telle union, ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances dans le couple et ça va finir par briser. Et c'est ça qui a fini par briser beaucoup de foyers. Je dirais même que dans la vie des chrétiens, c'est pareil. Quand on en arrive là où il y a une telle, je dirais, violence. Il y a une violence qui s'installe. Il y a des choses difficiles que tu vis à la longue. C'est clair que ça finit par briser le couple. À la longue, ça finit par briser. Il y a l'agressivité, etc., qui peut prendre place. Il y a la personne peut être un abuseur, peut ne pas manifester d'amour. Voici autant de raisons qui peuvent être à la base du fait que les gens se séparent. Donc, des menaces, une arme au chevet du lit, tu ne peux pas dormir en paix. Une nuit, deux nuits, trois nuits. Et surtout qu'on ajoute une deuxième arme, là, tu vas te poser mille et une questions, tu dis, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Je ne veux pas attendre que ma tête soit coupée. Une autre raison qui est à la base de beaucoup, et je crois que j'avais souligné ça au début, c'est l'immaturité d'un des deux conjoints. Il y a des gens qui ne sont pas du tout matures dans leur comportement. Tu patientes, tu attends, mais ça finit pas par venir. L'égoïsme, c'est moi. Toi, tu es là et puis tu, Tu vis et tu attends que je te donne ce que j'ai à te donner. Le reste, tu n'as rien à attendre de moi. Égoïsme, ce n'est pas la vie de couple. Hein, quand il y a trop d'égoïsme. Et puis, il y a le péché lui-même. Le péché qui n'est pas seulement le péché sexuel qui peut être à la base de la séparation. Je ne sais pas comment tu vivrais avec un mari qui est un receleur. Tu passes des temps à aller voler. Tu te dis, un jour, ça va nous tomber dessus. Ou tu vas aller le dénoncer. Tu vas lui dire longtemps, est-ce qu'il y a quelque chose à changer là? Parce que moi, je ne peux pas continuer à vivre. Notre maison est devenue un recel de tous les objets volés. Voici des choses qui sont parfois à la base de rupture et de séparation. Et Paul ne préconise pas, dans ce cas-ci, il le dit, dans le cas des couples mixtes, il ne préconise pas de rester ensemble pour n'importe quel prix dans les couples mixtes. Hein. Le divorce devient à ce moment-là une alternative acceptable. Je vais m'arrêter un petit peu sur le terme qui fait l'objet de beaucoup de discussions. On dit que le frère ou la sœur, au verset 15, ne sont pas liés. Le mariage, c'est une alliance où deux personnes sont liées. Deux personnes s'allient. Quand on dit ici que les deux personnes ne sont pas liées, il y a des interprétations divergentes, vraiment divergentes. Il y en a certains qui disent, oui, ils ne sont pas liés parce qu'ils ont le droit, juste le droit de se séparer. Seulement, ça s'arrête là. Pas aller plus loin pour dire, bon, je me suis séparé, donc je suis libre et je peux me remarier. Il y en a qui disent ça. D'autres disent qu'ils ont le droit de se remarier parce que Dieu ne permet pas que tu puisses vivre dans cette solitude. Lui qui a créé, il a trouvé qu'il est bon que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il soit avec une femme. Donc, tu te sépares. Ça peut être pour un temps, le temps de voir que les choses changent, mais ça peut durer d'année en année. À un moment donné, tu vas te dire, il faut bien que je change, il faut bien que je me décide de refaire ma vie. Donc, certains interprètes disent la séparation s'arrête là. C'est la séparation et le reste, tu ne peux pas te remarier. D'autres disent, mais tu peux te remarier, tu as le droit de te remarier, mais cette fois-ci avec un croyant, parce que tu étais croyant. Alors sinon, le croyant va être une victime, doublement victime. Victime de quoi? Victime d'un, il est abandonné, il est rejeté. Deuxièmement, victime parce qu'il est puni, lui qui était innocent. Lui n'a rien fait. C'est lui qui est puni doublement. On l'abandonne et puis on lui dit, tu n'as pas le droit de te marier. Je parle des commentaires. Et là-dessus, on donne le texte de Exode 34. Exode 34, c'est dans le verset 7 qui parle de l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. Je m'arrête à cette partie. Qui ne tient point le coupable pour innocent? Notre Dieu est un Dieu juste. S'il n'éteint point, il ne tient point le coupable pour innocent, pourquoi tiendra-t-il l'innocent pour victime comme coupable? Donc, des raisons qui sont avancées là-dessus. Donc, n'est-il pas juste notre Dieu pour qu'il ne pas tenir l'innocent pour coupable? Donc, s'il n'a pas le droit, lui, il est enfoncé de tous côtés. On le rejette et puis il n'a même pas le droit de refaire sa vie. On dit Dieu est juste pour ne pas tenir l'innocent pour coupable. C'est comme si lui était coupable de quelque chose. Il n'est coupable de rien. Voici d'autres commentaires qui sont faits. D'autres encore, ils prennent de ne pas permettre tout simplement le divorce. De ne pas permettre le divorce et continuer à évangéliser. Il faut prendre patience. Continuer à évangéliser la personne, continuer à prier pour le non-croyant jusqu'à sa conversion. Oui, on peut le faire. Mais le verset suivant dit, sais-tu si tu sauveras ton mari ou sais-tu si tu sauveras ta femme? Il n'y a aucune garantie. Paul l'affirme, au verset 16, il affirme qu'il n'y a aucune garantie d'amener le non-croyant à la foi. Il n'y a aucune garantie. Alors, il est préférable dans ces cas-là de divorcer, surtout si la poursuite de la vie conjugale devient dangereuse. Ça, on ne peut pas oublier ça. Parce qu'on sait combien de gens dans les couples ont mal fini. Un a fini par perdre la vie, par entêtement quasiment, etc. Donc, on dit, il y a des cas de violence. Ce n'est peut-être pas seulement vis-à-vis de la conjointe, de l'épouse, mais il y a aussi la maltraitance des enfants qui s'ensuit. Ils deviennent victimes des choses pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Il y a beaucoup de raisons, etc., qui peuvent pousser à ce moment-là au couple mixte, donc, de se séparer. Et je m'arrête là pour ce qui est du texte. Je l'avais dit qu'il allait être court pour la partie 2. Mais je voudrais prendre un temps pour parler un peu du divorce, voir un peu ce que la Bible en dit. Parler aussi de du remariage, des sujets chauds. J'ai aimé ce frère qui m'a dit, mercredi passé, il dit, mais bon, tu as au moins le mérite d'oser en parler. Parce que c'est vrai, on sait que beaucoup, dans les églises, etc., le pasteur va donner des versets, il dit, ben, la Bible dit ceci et ça s'arrête là. Mais quand tu es face à face, en tant que pasteur de l'église, avec des cas qui viennent vers toi, des cas auxquels il faut que tu donnes la réponse. Tu ne peux pas juste répondre avec des versets. Oui, la Bible dit. Mais il y a d'autres versets dans la Bible qu'il faut aussi aller regarder. Et puis, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce soir. Et je vais vous dire d'emblée qu'on éprouve cette difficulté de trouver un équilibre entre les Écritures et les aspects pratiques de la vie. C'est très difficile. Ou on s'en tient à la lettre, à ce que dit la Bible, où on dit, ben, je regarde ce qui se passe à l'extérieur, et nous avons vu d'ailleurs la fois passée qu'il y a eu comme une évolution. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, c'était pour vivre ensemble pour toujours. Je veux dire, pour leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est la volonté parfaite de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le plan idéal de Dieu. Mais chemin faisant, à cause du péché qui est entré dans le monde, des choses ont commencé à changer, et puis des portes se sont ouvertes. On a commencé à traiter du cas de l'infidélité, de l'adultère, etc. Nous allons en parler aussi. Donc, la difficulté de trouver un équilibre entre les deux, trouver un équilibre entre le plan idéal, comme je dis, de Dieu, la pensée de Dieu pour le couple, qui est que le couple soit uni jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de séparation possible. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité et pour le couple, je veux dire. Mais à côté de ça, il faut mettre l'imperfection de l'homme, le péché qui est entré, qui est venu affecter ce que Dieu voyait au départ dans la vie des humains. Donc une chose est certaine ici, c'est que ce plan de Dieu n'est pas impossible, Dieu merci. N'est pas impossible parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à travers les hauts et les bas, à travers des difficultés, à travers des combats. Il y a des gens qui ont tenu bon. J'écoutais quelqu'un qui parlait de ses parents qui a fêté 60 ans de vie commune. C'est possible. Jusqu'à la fin de leur jour. Une chose est certaine, ce plan n'est pas impossible à atteindre, on peut y arriver, et plusieurs y sont effectivement arrivés, Dieu merci d'ailleurs. Dieu merci. Alors dans l'Ancien Testament, on le sait, que Dieu, tout le long, Dieu hait la répudiation. Dieu le dit, Dieu hait la répudiation à cause des raisons qui sont à la base de cette répudiation, le manque d'amour, l'infidélité et des tas d'autres choses. Dieu il a horreur de la répudiation. Mais aussi, il en a horreur à cause des effets néfastes, des conséquences qu'il y a dans ce genre de séparation. Dieu a horreur. On sait que les enfants sont victimes, il y a des gens qui deviennent malheureux toute leur vie à cause d'une séparation. Dieu a horreur de cela. Nous lisons quelques textes. Deutéronome 22. Je vais lire quelques versets. Le verset 13. Ce sont des prescriptions relatives au mariage, donc, dans l'Ancien Testament, on dit « Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme » et il l'a prise en aversion. C'est quelqu'un qui va donc comme mentir, hein, mentir pour trouver des raisons pour se séparer de cette personne. La Bible dit que cette personne n'a pas le droit. On va lui imposer de garder cette femme. L'homme est forcé de garder cette femme dans ce passage. Si nous allons dans Deutéronome 22, et si vous voulez continuer, vous pouvez le lire. Donc 18, les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme, et elle restera sa femme. Donc on lui impose de garder sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Quand je lis ceci, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une alliance là-dedans? On a forcé la main à cette personne, hein? On a forcé la main, les anciens de la ville ont forcé la main, c'était les lois à l'époque. Deutéronome verset 22, le chapitre 22, le verset 28. Nous avons un autre cas là-dedans. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sicles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc Dieu a horreur de la répudiation. Et ici même, jusqu'à forcer la main à la personne qui veut se sauver en invoquant des raisons qui ne sont pas bonnes et l'autre qui, évidemment, a utilisé de la violence pour s'emparer de cette fille. On dit, il doit garder, mais on se pose la question, est-ce qu'il y a alliance ? Une alliance, c'est quelque chose que tu consens librement. Mais là, ici, on te l'impose, hein, tu te soumets à cela. On va lire un autre texte, Malachie chapitre 2, le verset 13 aussi, dit ceci. Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait, si on veut parler d'Abraham, évidemment. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. C'est un texte ici que des gens vont évoquer. On dit, mais on évoque le cas d'Abraham en disant Abraham a répudié Agar. Mais d'abord, il faut préciser qu'Agar n'était pas la femme de la jeunesse d'Abraham. Sarah était la femme de jeunesse d'Abraham. On sait que il a pris Agar parce que poussé pour avoir un enfant, etc. Donc c'était pas c'est pas à propos de dire mais comment ça se fait que on a permis qu'il puisse répudier Agar. Mais non, c'était pas la femme de sa jeunesse et c'était pas la femme de l'alliance, etc. Donc il l'a fait aussi, il s'est séparé de aussi pour protéger Isaac qui était le fils de la promesse. Des erreurs que l'on commet, mais on les paye d'une façon ou d'une autre. Amen. Il y a d'autres personnes qui évoquent le texte de Jérémie. Jérémie, chapitre 3, verset 8. Ça évoque la relation de notre Dieu avec Israël. Je vais partir du verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ?» Dieu se compare comme étant l'époux et Israël son épouse. Donc, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Elle dit, « Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. » C'est une image ici, façon de parler du Seigneur. Israël infidèle, Dieu l'a répudié. Des gens sautent dessus, on dit il est la répudiation, mais il l'a répudié. Ce n'est pas tout à fait à propos. On dit que Dieu aussi s'est impliqué dans la répudiation d'Israël. Il est la répudiation à cause de la cause. Mais lui, quand il attendait le retour, par exemple, le verset que nous venons de lire, Dieu attendait le retour d'Israël, mais il regrette, il n'est même pas revenu à moi jusqu'à présent. Au contraire, sa sœur Judas va faire la même chose au lieu de... Je voudrais lire aussi dans Deutéronome 24, on parle donc de cette loi sur le divorce, les quatre premiers versets. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, deuxième fois, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Les quatre premiers versets, je voudrais lire justement le commentaire que fait MacArthur ici à ce sujet. Il dit, ce passage n'ordonne pas, ne recommande pas, ne justifie pas et ne suggère même pas le divorce. Quand on le lit, il reconnaît que le divorce peut arriver. C'est pas lui qui pousse les gens à divorcer, mais il dit, ça peut arriver. Et Il l'autorise uniquement dans certaines circonstances. Et le cas présenté sert à montrer que le divorce est source de souillure si un homme découvre une impureté, s'il divorce légalement. Il a défini le mariage pour la vie, comme le déclare Genèse 2, 24, et il a autorisé le divorce à cause de la dureté des cœurs, comme le révèle Matthieu, nous l'avons lu la fois passée, à cause de la dureté des cœurs, Jésus qui parlait comme ça. Et donc, c'est un bon commentaire pour dire que le passage ici n'est pas en train d'instaurer le divorce. On ne pousse pas les gens à aller divorcer. Mais quand ça arrive, si ça arrive, ça peut arriver, il l'autorise. Plusieurs textes qui nous en parlent, plusieurs textes où Moïse reconnaît la pratique du divorce. Il reconnaît la pratique du divorce, voyons qu'il la tolère et même il la réglemente pour que ce ne soit pas une porte ouverte à tout. Il la réglemente. Moïse avait en effet cette possibilité justement aux gens de donner la lettre de divorce, lettre dans laquelle il était écrit que, on vient de le lire, que tu peux te remarier, tu peux prendre un autre époux. À l'époque, c'était ça. Donc Moïse avait offert cette possibilité de la lettre de divorce, c'était pour protéger la femme. C'était pour protéger, et non pour légaliser le divorce. C'était vraiment pour protéger la femme et ce n'était pas du tout pour légaliser le divorce. D'où le commentaire que nous venons de lire confirme la même chose. Et Moïse donc reconnaît la pratique du divorce, il la tolère, il la règlement dans certaines conditions seulement, mais il élargit à plus que l'adultère. Lui, il élargit à plus que l'adultère. Malheureusement, comme vous voyez, il ne fait pas comme un traité sur le mariage où il donne tous les cas. Il y a donc une certaine imprécision sur le motif de la répudiation. Et ça peut aller loin. Ce n'est pas juste les cas qu'il dit, ça peut aller loin. Parce que c'était quelque chose qui était encadré à l'époque. Et d'ailleurs, ici, j'imagine, au Québec et dans le temps en Afrique, c'était comme ça. Les mariages étaient beaucoup plus encadrés par les familles. C'est les familles qui se parlaient entre elles, c'est les familles qui discutaient quand les choses allaient mal, c'est les familles qui arrangeaient des choses, qui arrangeaient les mariages pour leurs enfants. Donc, c'était quelque chose qui était beaucoup plus réglementé par la juridiction familiale plutôt que par les lois ou par l'Église ou par le reste de la communauté. Donc, la reconnaissance que le divorce peut exister vaut approbation. Si ce n'était pas une approbation du divorce, il l'interdirait carrément. Tout simplement. C'est ce que je tire comme conclusion, c'est ce que j'entends dans la plupart des commentaires que je lis. Ça vaut approbation. Il y a d'autres cas de divorce qui sont invoqués dans la Bible. Dans les livres d'Esdras, au chapitre 9. Dans les livres de Néhémie, au chapitre 13. Il est fait cas des divorces qui ont été imposés aux hommes qui avaient pris des femmes étrangères pendant l'exil. On dit, c'est pas possible. On a même la liste là-dedans. Je vous lirai ça au chapitre 9 d'Esdras et dans Néhémie, chapitre 13. On a même fait la liste de certaines des personnes connues qui avaient pris des femmes étrangères auxquelles on a imposé de se séparer de ces femmes. Donc, nous avons aussi des cas d'inceste qui invalidaient certaines unions. Inceste, c'est-à-dire quand on découvre par la suite qu'il y a des liens, des gens sont tombés, des liens familiaux, des liens de sang très rapprochés. On ne peut pas appeler ça vraiment divorce, mais on va appeler ça plutôt des cas d'invalidation d'un mariage. C'est d'annulation carrément, ça n'a pas de place, etc. Alors, même si Dieu est le divorce, nous voyons que le concept de divorce est biblique. La Bible en parle dans l'Ancien Testament, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Dieu est le divorce, mais les réalités étaient telles que les divorces arrivaient, et donc c'est un concept biblique, il est reconnu et il est réglementé. Allons dans le Nouveau Testament, où on va voir, durant le ministère de Jésus sur terre, quand il faisait son ministère sur terre, il y avait, à ce moment-là, il y avait des divergences entre les rabbins, entre les responsables spirituels de l'époque, il y avait des divergences de vues sur les motifs de divorce. Et certains pouvaient autoriser le divorce pour des motifs aussi futiles que celui que nous avons vu dans le Deutéronome, chapitre 24, verset 1. Je trouve quelque chose qui ne me convient pas, quelque chose de léger. Hein? C'est ça, tu n'aimes plus, tu trouves juste n'importe quoi que tu trouves que tu n'aimes pas chez la femme. Il y a des gens qui étaient partisans de ça, parmi ces rabbins, et donc deux écoles s'opposaient. Il y a l'école de Hillel, qui faisait une approche qui permettait la répudiation sans raison fondée. C'est ça qu'on vient de dire. Pour n'importe quelle futilité, hop, oh, non, moi je ne veux plus, je ne me plais plus. Non. Il y a des gens, un groupe de rabbins qui défendaient cette cause. Et mais il y a un autre groupe de rabbins avec Shammai qui faisait une interprétation plus rigide, qui permettait la répudiation pour adultère seulement. Et Jésus arrive à ce moment-là avec son ministère. Alors, quelle a été sa position? Nous l'avons vu un peu dans les textes, je pense que nous l'avons vu la fois passée, dans Matthieu chapitre 5, verset 31. Vous voyez déjà le contexte, Jésus est en train de parler sur le péché d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère, au verset 27. Et ça continue, etc. Et à partir du verset 31, il dit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. » C'est Jésus qui parle. « Il a été dit, c'est ce qui vous a été enseigné depuis toujours, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Première prise de position de Jésus-Christ, il n'est pas en train de parler spécifiquement du divorce. Ce n'est pas le sujet. Il parle de ça juste parce qu'il veut mettre en lumière une certaine situation qui est liée à l'adultère. Mais c'est plutôt dans Matthieu 19. Je vais lire à partir du verset 3. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, c'est toujours pour le tendre des pièges chaque fois. Il dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça veut dire comme celui que défendaient les partisans de Hillel. Je ne sais pas si on appelle ça le hillélisme ou le hilléliste, etc. Donc, est-il permis à un homme de répudier? C'est ça le débat qu'il y avait dans la société à ce moment-là. Ils viennent avec ce piège vers Jésus. Est-ce qu'il est permis de répudier pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus ne donne pas une réponse directe à la question qui lui est posée. Il contourne la chose. Il renvoie aux dispositions d'origine. Les dispositions d'origine, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour une vie de mariage indissoluble, indissoluble, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu le renvoie. Il ne répond pas à leurs questions, il les renvoie aux dispositions de l'origine. Mais les pharisiens ne sont pas satisfaits, évidemment, parce qu'il n'a pas répondu à leurs questions. Au verset 7, ils reviennent à la charge. Pourquoi donc Moïse, dirent-ils, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était l'indissolubilité du mariage. Mais heurté à la dureté du cœur des gens, Moïse a dû céder. Je vais dire ça comme ça. Moïse a dû céder. Et comme je disais la fois passée, je ne vois pas vraiment en termes clairs où Jésus condamne ce que Moïse a fait. Je ne vois pas. Donc, la question des pharisiens est en rapport avec les prescrits de Moïse. Et la réponse de Jésus dit, Moïse n'a pas commandé, Moïse n'a pas ordonné, mais Moïse a permis. Il a permis. Et certains concluent donc qu'une permission, c'est vrai que c'est moins qu'un commandement, mais c'est plus qu'une simple tolérance. Si tu permets, tu ne vas pas dire que je permets une fois, tu tolères peut-être une fois. Mais quand tu dis je permets, ben, tu vas permettre chaque fois que la même condition arrivera, tu permets. Donc ce n'est pas un commandement, mais c'est plus qu'une tolérance. Et au verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus admet ce que Moïse a fait, et Jésus donc valide, ne condamne pas la possibilité du divorce. Il la valide, la possibilité du divorce, mais dans des circonstances, là encore il précise, dans des circonstances particulières, les cas d'adultère. Mais il réitère, que c'est un changement à l'ordre initial de Dieu. Dieu, au départ, veut l'indissolubilité du mariage. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est vraiment l'idéal de Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, on s'aperçoit que, rendu même au Nouveau Testament, le divorce est biblique. Jésus dit oui, dans des conditions d'adultère, le divorce peut avoir lieu. Et à cause de la dureté de votre cœur toujours. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a commis l'adultère dans un couple qu'il n'est pas pardonnable. Ce que je dis, nous avons souvent mis un cachet particulier, enfoncé le clou sur certains types de péchés, comme s'ils n'étaient pas pardonnables. Jésus a pardonné cette femme adultère qu'on devait lapider selon la loi. Il a pardonné, il dit « va et ne pêche plus ». Jésus l'a pardonné. Dans le couple, on peut aussi pardonner. Mais la société, on va se moquer de moi, on va n'importe quoi véhiculer. Donc, juste pour montrer d'abord que nous venons de voir que dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui confirment donc le divorce. Dans le Nouveau Testament, Jésus aussi le reconnaît, mais dans certaines conditions. Amen. Quelle est la position de Paul dans notre chapitre 7 ici? Si nous allons plus loin, on n'a pas encore lu ce passage, dans le chapitre 7, le verset 39, il dit « Une femme », il revient vraiment à la position initiale, il dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Paul dit, Paul confirme aussi l'indissolubilité du mariage. Il confirme, c'est la volonté parfaite de Dieu. Personne ne peut s'opposer à cela. C'est la volonté parfaite de Dieu. Il y a un autre texte dont on parle souvent, c'est dans Romains chapitre 7. Nous l'avions vu quand nous avons étudié l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 7, les premiers versets. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. » C'est par la loi ici. Hein. Nous sommes dans la loi. Il est en train de parler de la loi, de l'impact de la loi. Et pour illustrer l'impact de la loi, il donne l'exemple du mariage qui est quelque chose que les gens allaient bien comprendre. Et j'ai pris mes notes de la fois passée. Je l'avais bien souligné aussi dans les notes quand on avait étudié l'épître de Paul aux Romains. Il avait été dit ceci, que dans le chapitre 7 de Romains, les six premiers versets, il voulait démontrer que le chrétien n'est plus sous la loi. Il n'est plus sous la loi. Voilà pourquoi il voulait illustrer ce principe par l'exemple du mariage, qui était un domaine facile à comprendre pour les Romains. La femme était liée par la loi à son mari tant qu'il était vivant. La femme était libérée de cette loi quand le mari meurt. Et pour illustrer cela, il dit, de la même façon que nous étions liés à la loi pendant que nous vivions, mais nous sommes libérés de la loi depuis que nous sommes morts avec Christ. Voici le contexte dans lequel l'épître de Paul aux Romains parle de ce mariage. Il donne cet exemple, mais on le prend souvent pour prouver donc l'indissolubilité du mariage. Ça en parle, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement le bon texte qu'il faudrait prendre, peu importe. Donc, ce n'est pas dans Romains un enseignement sur le divorce qu'il est en train de donner, c'est tout simplement une illustration sur l'impact de la loi. Je pourrais lire aussi les commentaires qui sont là-dedans, mais je ne vais pas le faire, le temps avance. Et nous étions dans le chapitre 7 de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 7. La fois passée, nous avons parlé du verset 11. On avait dit, si la femme est séparée et qu'elle demeure sans se marier, non, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, Paul ouvre la porte parce qu'il reconnaît que si elle est séparée, ça veut dire qu'il a eu vent. Sans doute qu'il y avait des cas de séparation qui avaient déjà eu cours au niveau de l'Église. Donc, la séparation a déjà eu lieu. Il reconnaît ces cas de divorce en parlant de cela. Par contre, au verset 15, en parlant des couples non, des couples mixtes, c'est le deuxième cas de divorce donc, qui est quasiment permis pour les couples mixtes. Le deuxième cas. Le premier, c'est celui-là, parce que ça parlait à ceux qui sont mariés, au verset 10, aux croyants mariés. Il dit, si elle est séparée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que même chez le couple marié, il y avait des cas déjà de séparation. Deuxième chose, au verset 15, ça parle de couple mixte. Il reconnaît là aussi que c'est permis au couple mixte de se séparer. Donc Paul, ce que je veux dire par là, c'est que Paul était réaliste. Il comprend que Dieu ne veut pas nécessairement enfermer les gens dans des positions impossibles à vivre. Des non-croyants, les enfermer dans une position et dire « vous ne pouvez pas vous séparer ». Il sait que d'abord, tout l'enseignement qu'il est en train de donner, il le donne plutôt aux gens qui croient. Et que donc cet enseignement n'a pas nécessairement d'impact sur le non-croyant. Alors, le maintenir dans une situation impossible, et Paul dit que ce n'est pas possible d'envisager une vie de couple dans des conditions comme celle-là. L'un ne comprend pas le sens de l'enseignement qu'il donne, et l'autre peut comprendre. Il ne veut pas enfermer le croyant dans des situations impossibles. Le non-croyant ne se sert pas toujours nécessairement, ils ne se sentent pas concernés par les enseignements sur la vie de couple. On ne peut pas les enfermer dans une situation et dire, mais impossible de vous séparer. Il le comprend. Et donc, Paul reconnaît l'existence du divorce dans ce cas-là également. Je m'arrête là pour ce qui concerne le divorce, pour dire qu'on le voit, la Bible en parle, c'est un concept biblique, à la fois dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et il y a des conditions pour ces choses-là. Je voudrais dire maintenant un mot sur l'adultère, à proprement parler, parce que c'est la condition, c'est vraiment la clause d'exception qui apparaît partout pour dire c'est pour le seul cas d'adultère que l'on peut se séparer. Et je vous avais dit que les commentateurs vont plus loin qu'une lecture de la Bible comme en français, comme je la lis en français. Ils remontent au sens premier des mots. Ils vont aller chercher la signification première des mots. Les mots qui étaient utilisés dans la 70, la 70, la 70, comme on l'appelait, c'était en grec. Donc, les mots les plus utilisés dans la Bible pour parler de l'adultère, dans la traduction grecque, c'est le mot porneia. Ça vous dit quelque chose. Porneia, ça fait référence à la pornographie comme on connaît aujourd'hui. Porneia, qui est le plus courant. Et ils ont recensé comme ça revient 24 fois. 24 fois que ça revient. Par contre, il y a un autre mot qui est plus précis pour l'adultère, qui signifie vraiment l'adultère au sens strict, au sens spécifique, dit que c'est moikeia qui n'apparaît qu'une fois. Et quand Jésus parle d'adultère, en grec, le terme utilisé, c'est porneia. Porneia, qui signifie dans un sens large la fornication, la prostitution. Tu te prostitues ou tu fais prostituer quelqu'un d'autre. La relation avec un proche parent, l'inceste, tout cela rentre dans porneia. Dans un sens plus large, tout comportement qui va à l'encontre de la vie de fidélité et de la vie de respect qui doit exister entre les conjoints. Le mariage, c'est la base du mariage. Le mariage, ce n'est pas juste une alliance. Et puis après, une fois qu'on est dedans, il se passe n'importe quoi. Dans Éphésiens 5, Paul encore l'explique, ce que les maris doivent faire, leurs femmes doivent faire. Voici les lignes directrices qui doivent mener la vie de couple. Donc, dans un sens général, il signifie plus que le simple le mot adultère. C'est vraiment un sens beaucoup plus large. Le manque de respect du conjoint. Aller à l'encontre de la fidélité, ça peut être le harcèlement sexuel, ça peut être l'exhibitionnisme. Vous savez, aujourd'hui, les couples font n'importe quoi. Ce n'est pas pour ça que Dieu a créé le couple. L'exhibitionnisme, la pornographie elle-même, que ce soit dans Internet, que ce soit dans les magazines, tu sais, il y a tellement de choses aujourd'hui qui s'offrent. Et les mots qui ont été utilisés par Jésus dans tous ses propos, ce n'est pas moikeia, donc adultère au sens restreint, c'est le mot porneia, qui est un sens beaucoup plus large. Donc, certains disent donc que Jésus ne limite pas la possibilité du divorce à l'adultère au sens strict des commentateurs qui le disent. Et ça nous permet, nous, de nous faire aussi une idée à travers toutes ces lectures que nous devons faire. Donc, Jésus ne définit pas non plus de façon précise les conditions du divorce. Il ne définit pas de façon précise les conditions du divorce. Il ne faut pas oublier ici que la réponse qu'il a donnée, il répondait à une question. Nous avons vu, ils ne répondaient pas la première fois, la deuxième fois, ils sont allés plus loin pour insister. Donc, c'est dans le cadre de répondre à une question. Ce n'est pas dans le cadre d'un enseignement qu'il est en train de donner sur l'adultère, etc. Il n'est pas en train de donner un enseignement. Parce que ça devait être plus élaboré à ce moment-là et ça devait être plus explicite. Et à partir de ça, donc, on dit ceci. On dit qu'il, elle, a banalisé, lui, les choses. Il dit, pour n'importe quelle raison, on peut se séparer de sa femme. Mais Jésus ne cède pas à la banalisation quand il dit les choses comme ça. Il voit donc qu'il y a une porte, comme s'il ouvre une porte. Il croit que l'approche de Jésus est, comme je disais la fois passée, une approche plutôt pastorale. Pas légaliste, mais une approche pastorale. Son cœur de berger, son cœur de compassion, son cœur d'amour. Il n'a jamais chassé les pécheurs. Les pécheurs viennent à lui, il a la compassion, il les pardonne. Je disais la fois passée, n'est-ce pas l'attitude que l'Église devrait avoir? Plus de compassion sans céder à la banalisation. Plus de compassion pour donner peut-être un nouveau départ à ceux qui ont échoué dans leur mariage. Il faut noter aussi que même si l'infidélité est un motif valable, le divorce n'est que permis. Il n'est pas exigé. On n'a pas dit que quand il y a infidélité, on exige. Non, Parce que ça laisse encore la place à quoi? À la compassion. Ça laisse encore la place à la pitié. Enfin, pitié, non. À la compassion, je préfère. Sensibilité. Au pardon, merci. Au pardon. Il faut qu'il y ait ce sens, même dans le couple. Il est victime de l'adultère de sa femme. Il est victime des mauvaises attitudes de son mari. Mais il y a encore la place au pardon. Parce que la repentance est toujours possible de la part de celui qui est fautif. Et ça peut permettre à ce moment-là d'entrer dans un processus de réconciliation. Je m'arrête là sur l'adultère. Je vais revenir maintenant sur la dernière partie qui est un mot que je voudrais dire sur le remariage. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que si le divorce est permis dans certaines circonstances, qu'en est-il du remariage? Ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 24, les quatre premiers chapitres, on voit bien que l'Ancien Testament autorisait le remariage. Et il l'interdit juste dans un cas particulier, Deutéronome 24, les quatre premiers versets. Mais sinon, l'Ancien Testament autorisait que dans la lettre de divorce, il y avait une formule, je l'ai dit tout à l'heure, « Tu es libre de te marier ». Je vais lire ce commentaire, il va peut-être... Dans Deutéronome 24, le divorce ici est autorisé et on permet de se remarier parce que c'était clairement mis dans la lettre de divorce. Que tu es libre de te remarier. Donc l'Ancien Testament reconnaissait cette possibilité aux gens qui se sont séparés. Dans le Nouveau Testament, Jésus, tout en permettant le divorce en cas d'inconduite sexuelle, mais il ne dit rien sur le remariage. Clairement, il ne dit rien sur le remariage. Nous allons dans Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Il ne dit rien sur le remariage. Je dis que même en répondant aux pharisiens, donc, il n'a pas dit non à cette conception courante que les gens avaient. Ils étaient dans le judaïsme à l'époque. Ils vivaient sur base des textes du judaïsme. Et nous venons de le voir dans la lettre de divorce, donc, qu'il y avait cette mention que tu peux donc te remarier. Et plusieurs commentateurs, je reviens à cela, pensent que le lien demeure, même quand on divorce. Ils affirment que le lien de mariage demeure en vertu du verset 7 qui dit, en Matthieu, qui dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc certains commentateurs sont stricts là-dessus. Et longtemps l'Église a été comme ça. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'Églises qui sont dans cette position. Donc il dit, le lien demeure. Quand tu te sépares, le lien demeure en vertu de ce que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et je voudrais qu'on se pose ensemble une question là-dessus. En tout cas, moi, je me la suis posée, et je l'ai posée à quelqu'un à côté de moi. Est-ce que tous les mariages sont unis par Dieu? Je me pose vraiment cette question. Je dis que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Est-ce que tous les mariages sont unis par Dieu? La volonté de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas seul. Mais est-ce que tous les mariages sont nécessairement unis par Dieu? Il y a des gens qui s'unissent contre la volonté de Dieu. Nous avons vu les cas. De Esdras, dans Esdras chapitre 9, Néhémie chapitre 13, quand ils sont allés en captivité, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas épouser des femmes étrangères. Ils l'ont fait. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, est-ce que ça marche dans ce cas-là? Non. Il y a des gens qui s'unissent par forcing des parents. On ne l'avait peut-être pas connu ici, mais on sait que dans certains pays, c'est les parents qui décident. Même quand le jeune homme ou la jeune fille ne veut pas, les parents décident. La question, est-ce que c'est un mariage qui est uni par Dieu? C'est des questions que je pose. Je vous laisse là-dessus. Chacun va réfléchir là-dessus. Moi, je n'ai pas de réponse. En tout cas, je serais tenté de croire que non. Est-ce que des gens qui s'unissent sous forme de fausse représentation, je vais avoir tel avantage, je vais avoir la nationalité dans un pays canadien, je trompe une fille, je sais qu'il n'y a pas de mariage, je ne veux pas de mariage, est-ce que je ne veux pas la marier, je ne veux pas la garder pour la vie, mais fausse représentation ou pour un intérêt quelconque, pour avoir des papiers dans un pays, j'épouse une fille, c'est un mariage. Parce que c'est fait légalement, vous êtes allé à la mairie, des fois même dans l'église, et l'église ne peut pas aller lire dans le cœur de la personne. Est-ce que tous ces mariages sont unis par Dieu? C'est une question que je me pose, en tout cas je n'ai pas de réponse. Je parle d'autres commentaires. Je pense que oui, dans un sens, parce que c'est Dieu qui a voulu que l'homme ne soit pas seul. Donc à chaque fois qu'il y a union, c'est Dieu. Même les païens. Ça concerne les païens. Les lois de Dieu concernent les païens aussi. Et l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais quand on fait des choses sciemment, volontairement, et qu'on sait que c'est contraire à la volonté de Dieu, je me demande si vraiment il y a alliance. S'il y a une alliance indissoluble. L'alliance est entre deux personnes qui acceptent des choses. Mais l'un accepte, l'autre a de la malice dans son cœur. L'autre a des intentions qu'il ne révèle pas. Est-ce qu'il y a vrai, y a-t-il une alliance sincère, une alliance vraie, une alliance qui va durer? C'est des questions. Il y a d'autres commentateurs, évidemment, qui pensent que le remariage est adultère simplement si le divorce s'est fait pour un motif léger, futile, facile comme ça. En ce cas-là, oui, le remariage devient adultère si le divorce est fait pour un motif futile. Mais s'il est fait pour un motif valable, comme ceux qui sont cités dans la Bible, ben, la personne a le droit. C'est des théologiens, c'est des penseurs, c'est des gens érudits en matière de Bible qui le disent. Quel crédit faut-il leur donner? Jusqu'où faut-il leur donner un crédit? Je ne sais pas. Mais il faut tenir compte de tous ces éléments. Donc, nous parlions de Jésus qui ne dit pas précisément, évidemment, qu'il y a le droit au remariage. Il ne le dit pas. Il dit que quand vous le faites, c'est un adultère. Nous avons le cas de Paul. Nous l'avons vu au verset 11, justement, quand on parlait des couples. Les couples de mariés, je vais rappeler le contexte. Nous avons dit que quand Paul écrivait, il se passait des choses dans l'église de Corinthe où des gens mettaient de l'avant les vertus de l'ascétisme. Donc, je dis, maintenant, moi, je me prive du mariage, etc. Ça me permet de m'élever au niveau de ma spiritualité. Quelqu'un qui va divorcer, qui va se séparer pour un motif personnel comme celui-là, l'ascétisme, croyant que ça l'élève au niveau de la spiritualité, il est supérieur à d'autres niveaux. C'est une raison personnelle sans qu'il y ait eu une atteinte au mariage. Il n'y a aucun défaut dans le fonctionnement du mariage, mais c'est pour des raisons strictement personnelles. Au verset 11, et c'est clair, Paul le dit, il doit demeurer non marié parce que c'est son choix personnel. Ou sinon, alors il doit se réconcilier avec sa conjointe. Par contre, quand on en vient au verset 15, qui parle des couples mixtes, dit le conjoint chrétien n'a pas décidé de se séparer, il ne peut qu'accepter ce qui lui arrive. Comme les veuves. Le malheur frappe, l'autre meurt, il ne peut qu'accepter. Il n'a pas choisi ce qui lui arrive. Il n'a pas décidé de se séparer. Il est désormais dans une relation parfois impossible. Verset 15. Nous sommes au verset 15 qui parle des couples mixtes. Tu te retrouves dans une relation de mariage qui est impossible. Tu te retrouves donc délié. Il dit qu'il n'est pas lié à ce moment-là. Tu es donc délié de tes engagements antérieurs et tu te trouves dans une situation similaire à celle d'un célibataire. Et encore, je reviens au mot. Ceux qui vont aller faire des recherches trouvent que le mot qui est utilisé dans ce cas-là, c'est le mot agamos qui est équivalent à célibataire, la même chose qu'il utilise comme au verset 8. Et enfin, il y a des commentateurs qui disent que le conjoint non-croyant, de toute façon, il est non-croyant, il ne va pas tarder de tomber dans l'adultère. Il se sépare, mais il ne va pas rester comme ça. Il va sûrement chercher une autre femme. Il ne va pas tomber dans l'adultère. Et le fait qu'il va tomber dans l'adultère, ça va donc libérer la personne chrétienne et ça va lui donner la possibilité de se remarier. Voici toutes sortes de commentaires qui sont émis à ce sujet. Et là-dessus, je me demande si on peut tirer une conclusion sur les deux sujets, le divorce et le remariage. C'est difficile compte tenu des divergences des conditions, mais on voit à travers tout ce que nous avons dit qu'il y a deux motifs de divorce qui sont invoqués dans la Bible. Les deux motifs qui sont invoqués, c'est l'inconduite sexuelle, et certains disent que ça va loin, c'est au sens vraiment très très large. D'autres disent que c'est la désertion ou la séparation du non-croyant qui décide de se séparer. Ce sont les deux motifs qui sont invoqués dans la Bible. Et comme je disais, la liste est-elle exhaustive? Parce que les motifs qui sont évoqués, évidemment, ne sont pas toujours très explicites. Que ce soit dans Deutéronome 24, que ce soit dans les propos de Jésus-Christ, que ce soit dans les propos de Paul, on dit s'ils se séparent. Mais s'ils se séparent, pour quelle raison? Il ne dit pas quelle raison. Et il y a d'autres personnes aussi, parmi les figures les plus connues de la Réforme, qui évoquent d'autres raisons, qu'eux trouvent d'autres raisons qui peuvent justifier le divorce. C'est le refus des relations sexuelles au conjoint. Ça, c'est Luther qui dit ça. Ça, c'est clair que c'est une raison de divorce. Un des conjoints refuse à l'autre les relations sexuelles, c'est une raison de divorce. Un autre, Melanchthon, quasiment un contemporain de Luther aussi, c'est des gens qui ont marqué le mouvement de la Réforme, dit, mais quand il y a un mauvais traitement qui est fait au conjoint, c'est une raison valable pour le divorce. Ça va loin, hein. Bucer, il parle de l'incompatibilité d'humeur. Lui, il pousse beaucoup plus loin encore. Quand il y a incompatibilité d'humeur, écoute, ça va être un couple dans lequel les gens vont vivre comme en enfer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est difficile. Donc, pour vous montrer que des gens considèrent que ben, toutes les raisons n'ont pas été énumérées dans la Bible. On peut ajouter et se poser la question. Quelqu'un qui, tout au long de sa vie, passe du temps à battre sa femme. Quelqu'un qui est, j'allais dire, toute la vie sous dépendance d'alcool ou d'autres substances. Est-ce qu'il y a une vie de couple là-dedans? Quelqu'un qui contraint sa femme à l'avortement tout le temps. Je veux avoir des relations sexuelles, je ne veux pas avoir d'enfants. Alors tu dois divorcer. Tu dois avorter. Quelqu'un qui contraint sa femme à avorter. Est-ce une raison valable pour se séparer? Et une chose qui est encore beaucoup plus difficile, et c'est ce qui malheureusement arrive, c'est que quand il y a des différends dans le couple, il y a des problèmes sérieux dans le couple n'ose pas en parler. Ils vivent des choses difficiles. Une année passe, deux années passent, trois années passent. À un moment donné, les torts de l'un et de l'autre, vous ne savez plus. Même s'ils viennent vous voir, lui dit, mais c'est lui qui a dit, c'est lui qui a fait. C'est lui. Vous ne savez plus savoir qui est en tort, qui n'est pas en tort. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Des situations difficiles. Ce que je veux dire, et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que je m'aperçois que Paul, dans l'épître ici, a tenu compte de la pensée divine, l'indissolubilité du mariage. C'est vraiment la base avec laquelle nous partons. Donc, tu ne peux pas venir dire « je divorce ». Avant que je te dise « frère, sœur, il y a ça et ça », je vais te dire « Dieu parle de, dans sa parole de l'indissolubilité du mariage ». C'est là-dessus que nous devons d'abord et avant tout travailler, voir si on peut colmater les brèches, si on peut remettre les puzzles en place pour que le couple revive. La première chose à faire, c'est de sauver le mariage. C'est la première chose à faire, pour autant que les gens se confient. Paul a tenu compte de la pensée divine, cette indissolubilité, il en parle. Mais il a tenu compte aussi de la réalité du péché. Comme Moïse, avec la dureté des cœurs des gens. Parce qu'il dit, si la personne est séparée, c'était au verset 11. Si elle est séparée, ça parle des couples qui sont mariés. Nous disons que c'est des gens qui sont croyants. Si elle est séparée, il a tenu compte qu'il y a eu des raisons qui les amènent à être séparés, même dans un couple chrétien, dans les couples non croyants, forcément encore. Donc, il a tenu compte de ces deux choses, la pensée divine et la réalité du péché. Et c'est là-dessus que je vais terminer, moi, en disant, quelle est la part de l'Église aujourd'hui? Est-ce que l'Église ne doit pas avoir un tel comportement d'accompagnement des époux? Tout faire pour les ramener ensemble. Faire tout ce qui est possible pour les ramener ensemble. Pour autant qu'ils vous écoutent aussi. Parce qu'il ne faut pas dire que parce qu'ils viennent devant le pasteur ou devant les anciens de l'Église, automatiquement, ils vont écouter tout ce qu'on va leur dire. Pour autant qu'ils écoutent. Il faut accompagner les gens en mettant en premier l'accent sur la pensée de Dieu. C'est vraiment sa volonté parfaite, ce qu'il attend du mariage. Et si tu veux agréer le cœur de Dieu, tu vas tout faire pour te conformer à cette volonté de Dieu. Tu vas tout faire pour te conformer à cela. Et souvent, il y a l'égoïsme qui entre en ligne de compte. Il y a l'influence autour qui va entrer en ligne de compte. Il y a les parents qui vont entrer en ligne de compte. Il y a la société, tout ce qu'on dit dans la société qui va entrer en ligne de compte, si bien que la pensée de Dieu, on dit, c'est bien beau, mais ce n'est pas pour le siècle présent. Pourtant, ça reste vrai que Dieu veut qu'il y ait indissolubilité du mariage. Sa volonté parfaite ne change pas. Ne change pas. Autant qu'il ne veut pas que l'homme pèche, c'est la volonté parfaite de Dieu, mais l'homme pèche. Et Dieu pardonne. C'est vraiment des éléments de réflexion que j'apporte. Je ne suis pas en train de faire une nouvelle doctrine. Je veux que ce soit clair. L'Église, et c'est ce qui s'est fait dans le temps, je l'ai dit la fois passée, c'est ce qui s'est fait dans le temps. Des églises, selon les différentes dénominations, ont pris position en rapport avec le divorce et en rapport avec le mariage. Même l'Église catholique, je crois, ne veut même pas entendre parler de divorce. D'autres églises ont dit, ben, le divorce, écoute, c'est une réalité que nous vivons, mais ils sont restés stricts longtemps. Je ne peux pas vous dire à partir de quelle année les choses ont changé, mais peut-être 10, 15, 20 dernières années, je ne sais pas. Au vu des situations dans lesquelles les gens vivent, ils ont assoupli leur position. Il y a des dénominations que je connais, je disais, c'est la fois passée. J'ai contacté des gens qui étaient dans telle église et puis on me dit, on ne peut pas les marier, c'est le règlement de l'église. Une personne qui a déjà été divorcée, on ne peut pas la remarier. J'ai posé des questions au pasteur et puis en posant des questions, c'est toujours autour des questions que les gens se mettent comme devant une réalité devant laquelle ils deviennent comme impuissants. Prêcher en avant, c'est bien. Prêcher en avant. Il est écrit, Dieu dit, Ne faites pas ci, ne faites pas cela. Mais j'ai vu les mêmes personnes qui ont prêché en avant, j'ai vu des gens venir devant elles pour demander, frère, pasteur, voici ma situation, qu'est-ce que je fais? La personne tourne en rond, ne répond pas, passe à côté de la question, complètement à côté de la question. Mais à la longue, vous perdez et la crédibilité, vous perdez et même le sérieux qui est attribué aux organes de l'Église. Les Églises, aujourd'hui, toutes, non, plusieurs, oui. Les Églises importantes au Canada, oui, en sont arrivées à assouplir cette position. Mais regardez de près pour ne pas banaliser. Vous savez, le pas est facile à faire. Hein? On l'a fait pour l'un, donc dit, mais pourquoi pas à l'autre? Mais ce cas, on l'a étudié. Ce cas, on a des témoignages. Ce cas, on a vécu ceci. Ce cas, on sait ce qui s'est passé dans ce groupe. Mais étant donné qu'il y a la dureté du cœur de l'homme, dans tous les sens, même au sens, dans le bon sens, la dureté du cœur de l'homme, on dit non, pas question. Ça a été à la base des divisions dans les églises. Ne doit-on pas accompagner, l'église ne doit-elle pas accompagner des gens? Autant que on dit c'est la volonté parfaite de Dieu, il faut la mettre en premier. Autant dans Matthieu 5, 48 dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la volonté de Dieu. Soyez parfaits. Sommes-nous parfaits? Ça fait partie des réflexions que je fais à haute voix et que je vous partage. Donc, première chose, c'est avoir en tête, en premier lieu, la pensée de Dieu. C'est l'indissolubilité du mariage. De le répéter et de le répéter quand on marie les gens. Surtout les jeunes gens qui n'ont jamais été mariés. Il faut qu'ils vous écoutent. Il faut qu'ils les mettent en pratique. Il faut qu'ils comprennent le sérieux de la chose de Dieu. Aujourd'hui, on a banalisé tout. La deuxième chose, il faut tenir compte du péché qui a entaché la pensée humaine et la nature humaine. Il faut en tenir compte aussi. Il faut tenir compte aussi de la souffrance qui est engendrée par des crises dans les mariages qui sont non fonctionnels. La souffrance n'est pas seulement au niveau des couples, mais la souffrance est également au niveau des enfants. À mon sens, l'Église ne peut pas fermer les yeux à ces choses. À mon sens. Mais il faut que nous demandions une grâce spéciale à Dieu qui nous aide. Je voudrais que nous ayons présent à l'esprit l'indissolubilité du mariage en premier. Deuxièmement, le péché qui a entaché la pensée humaine. Le péché n'est plus loin. On ne va pas aller le chercher loin. Il est dans l'Église. Et enfin, c'est de tenir compte de ces souffrances qui sont engendrées par des crises dans les mariages non fonctionnels. Des gens pleurent. Seigneur nous aide d'abord à maintenir les couples unis, en santé, que nous puissions donner le goût à d'autres de demeurer ensemble, en sachant que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen.